Vous écoutez France Culture.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la réalisation, Vincent Abouchard et François Connac.
Et à la technique aujourd'hui, Nadège Antonini. Il faudrait ne rien dire qui ne parte du cœur, quand même nos paroles produiraient du malheur. La franchise est-elle donc le désir de se nuire, l'amour du genre humain, une envie de le fuir? Telles sont les questions qu'un misanthrope agite qui fait de sa fureur le signe du mérite, et d'un amour jaloux, d'un caractère extrême, la marque des vertus et la preuve qu'il aime. Par quelle étrangeté le plus sombre des hommes, le grand excommunié à Paris comme à Rome, s'éprend-il d'une femme qui n'est pas son fort? Alceste serait-il un cocu qui s'ignore? Ou alors la victime, consentante et soumise du diable au feu duquel sa vertu se dégrise? C'est que le misanthrope, chef-d'œuvre de Molière, ne raille pas avec le dos de la cuillère et n'épargne personne, ni la vieille rombière, ni le monde impédant, ni les fausses prières.
Franchement, Raphaël, vos vers sont bons à mettre au cabinet.
Et moi, je vous soutiens que mes vers sont fort bons.
Pour les trouver ainsi, vous avez vos raisons, mais vous trouverez bon que j'en puisse avoir d'autres qui se dispenseront de se soumettre aux vôtres.
Enfin, tu conviendras.
Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse.
Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire...
Mais que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non, merci. Plaidier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. De trouver du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Bon, je ne suis pas encore capable de faire des chapeaux en alexandrin, mais je sais reconnaître que ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas le misanthrope. Et tout le monde aura reconnu évidemment la tirade de Cyrano dans le film de Rapneau, donc tiré de la pièce d'Edmond Rostand.
Cyrano qui me semble être une sorte de... Après on verra, c'est à nos auditeurs d'en juger, mais un contrepoint efficace peut-être pour donner à entendre la parole de celui qu'il n'est pas, c'est-à-dire d'Alceste. Si l'on connaît bien les choses, et en pédagogie, en bonne pédagogie, il paraît que ça fonctionne, si l'on connaît les choses par comparaison, il me semble que la comparaison de Cyrano et d'Alceste a quelques vertus éclairantes, parce que, après tout, ce sont deux attrabilières. Ils sont quand même de mauvaise humeur, l'un et l'autre, mais je crois pour des raisons tout à fait différentes. Voilà, c'est le sens de ce point de départ.
Et éclaircissez quelles raisons, parce que j'avoue que en préparant l'émission, moi, le misanthrope, je n'ai pas pensé à un moment à Cyrano.
D'abord, tout le monde connaît Cyrano, plus encore qu'Alceste d'ailleurs. D'ailleurs, c'est étonnant parce que Alceste a un nombre incalculable de copies. Je veux dire, un grand nombre de gens, peut-être une majorité de gens, ressemblent à Alceste. Alceste incarne, le misanthrope, la misanthropie d'Alceste incarne une disposition du caractère qu'on retrouve, qui est à peu près universellement répandue, qui, contrairement à ce qu'il pense, n'a rien d'une position de solitaire. La misanthropie est une position grégaire. Il y a une infinité d'Alceste. Il y a beaucoup plus d'Alceste que de Cyrano. Et pourtant, Cyrano est infiniment, et peut-être à bon droit d'ailleurs, plus populaire qu'Alceste. Cyrano, il est susceptible. Quand De Guiche lui propose de représenter son Agrippine, ou en tout cas de parler de son Agrippine à son oncle Richelieu, Cyrano est flatté un instant, et puis, je ne sais plus comment il le dit, De Guiche lui dit « il est des plus experts, il en corrigera seulement quelques vers », et Cyrano lui répond, là encore de mémoire, « impossible monsieur, mon sang se coagule à l'idée qu'on y change une virgule ». Cyrano est susceptible, et d'ailleurs, c'est après cet épisode qu'on entend la fameuse tirade du non-merci, de cet homme qui refuse de faire des courbettes pour se voir publier ennuyés et qui préfèrent rédiger un poème plutôt que faire une visite. Cyrano est susceptible, Cyrano est fier. D'ailleurs, quand De Guiche lui dit « Vous êtes fier ?», Cyrano lui répond « Ah oui, vous avez remarqué ?» Donc, Cyrano est fier, Cyrano est susceptible. Alceste est irascible. La première scène du Misanthrope en témoigne. Alceste, il est pas content. Cyrano est tendre avec ses amis, il est gentil avec Lebray. Il est d'une tendresse infinie avec Roxane, à qui il n'avoue pas son amour avant l'acte 5. Il est tendre avec Lignière, le poète Lignière, qui a un drinking problème, comme on dit. Il l'aime beaucoup, ami des poètes, etc. Il est tendre, il est gentil. Alceste passe son temps, la première scène en témoigne, à engueuler ses amis, en l'occurrence Philinte. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. Je vous ai vu faire des courbettes à un faquin alors que vous pouvez à peine me dire son nom. Bon. Et alors surtout, il passe son temps à chapitrer sa Roxane à lui, c'est-à-dire Célimène, dont l'amour est un mystère. D'ailleurs, l'amitié que Philinte porte à Alceste et l'amour que Célimène porte à Alceste sont deux énigmes, alors qu'on peut comprendre que Roxane finisse par aimer l'âme de Cyrano malgré son très long nez et que Lebray soit lui-même un ami fidèle. Ce que je veux dire ici, c'est que Cyrano tonitrue. Alceste, lui, il se met en colère. Cyrano, il punit les fourbes, les faquins, les méchants, les mauvais poètes, les imbéciles d'acteurs, les acteurs qui ressemblent à un Silène comme Montfleury, etc. Alceste, lui, il ne punit pas. Alceste, il se laisse faire. Il laisse perdre son procès, considérant comme Rousseau qu'un homme peut tromper tout le monde, sauf lui-même. Alceste, il feint l'indifférence alors qu'il souffre. Cyrano ne feint pas ses grandes colères, mais il ne souffre que d'une chose, c'est sa laideur.
Et puis Raphaël, Alceste est dans la cour. Alceste est à l'endroit précisément qu'il méprise le plus, et il y reste alors que Cyrano n'est pas un homme de cour.
Alceste occupe dans la cour, à la cour, le rôle de celui qui ne veut pas en être. Or, toutes les cours du monde, tous les systèmes du monde ont besoin d'iconoclastes, ont besoin de dissidence. La dissidence est un élément fondamental du système. Les tenants de la mondialisation ont besoin de gens qui se satisfont de la démondialisation. C'est même indispensable. Un système a besoin des objections qu'on croit lui faire. Car c'est sa nourriture. La première nourriture du système, c'est celui qui s'y oppose. C'est celui qui le contredit, non pas qui s'y oppose. C'est celui qui le contredit et qui croit, à tort en le contredisant, qu'il s'y oppose. C'est le cas d'Alceste. Donc, Alceste, c'est un faux marginal. C'est un marginal à l'intérieur du système. Cyrano n'a pas envie de fuir le système dans lequel il se trouve, dans la mesure où il n'appartient pas d'emblée au système. D'abord, c'est un cadet de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Il n'a absolument pas besoin d'autre chose que de la reconnaissance de ses camarades et de l'estime des gens qu'il estime en retour. Point barre. Ça lui suffit complètement. Il n'a pas besoin de haine générale, il n'a pas besoin d'en vouloir à l'humanité tout entière. De sorte que Cyrano est beaucoup plus subversif qu'Alceste, dans la mesure où Alceste incarne une figure officielle de la dissidence. Il est celui dont le système a besoin pour justifier ses propres procédures en daubant sur celui qui veut s'en exclure ou qui croit qu'il suffit de le dénoncer pour ne pas lui appartenir. Donc Alceste est l'outil du système qu'il combat, alors que Cyrano n'appartient à personne. Il n'appartient à personne sinon à l'amour qu'il porte à Roxane et l'amitié qu'il porte à Lebray puis à Christian.
On va écouter quand même la scène d'exposition, ou du moins un passage de la scène d'exposition, parce qu'il faut donner la chance quand même à elle cesse de se faire entendre.
Vous avez dans
cette
tout à fait raison, et je précise avant qu'on l'entende qu'on ne peut pas diffuser l'ensemble de cette scène. C'est une des plus belles scènes d'exposition du théâtre classique. C'est vraiment une merveille de préambule. On en a gardé non pas la substantifique moelle, mais un morceau que l'on a voulu le plus éloquent possible. Écoutez.
Non, tout de bon, quittez toutes ces incartades. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens.
Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux.
Vous voulez un grand mal à la nature humaine?
Oui. J'ai conçu pour elle une effroyable haine.
Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion ? Encore en est-il bien, dans le siècle où nous sommes...
Non ! Elle est générale et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants, et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le franc scélérat, avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements odieux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois s'est poussé dans le monde, et que par eux son sort de splendeur revêtu fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux qu'en tous lieux on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne, nommé le fourbe, infâme et scélérat maudit, tout le monde en convient, et nul n'y contredit. Cependant sa grimace est partout bienvenue, on l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue, et s'il est par la brigue un rang à disputer, sur le plus honnête homme on le voit l'emporter, tête bleue. Ce me sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice on garde des mesures. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains.
Alors, tout à l'heure, vous avez dit, Raphaël, que Alceste était nécessaire au système de la cour. Est-ce que c'est pas, d'un certain point de vue, la mauvaise conscience de ce système ? On sait bien, par exemple, que c'est une comédie à la base, le Misanthrope. C'était pour faire rire. Alceste est là pour faire rire. Mais selon qu'on le joue colérique ou mélancolique, il en sort un sens nouveau. Enfin, on pourrait bien très sûr. Bien le prendre au premier degré et contresigner ce qu'il vient de dire.
Mais d'ailleurs, certains l'ont fait, Rousseau le premier. Hein. Rousseau s'est identifié à Alceste et il a abondamment reproché à Molière de tourner Alceste en ridicule. Ce qui est un des procès les plus aberrants de Rousseau. Je veux dire, Rousseau qui, dans la lettre à D'Alembert, instruit le procès en morale des pièces, en considérant qu'il ne faut pas montrer des pièces et des forfaits dans les pièces que le peuple ne devrait pas supposer possibles. Rousseau, censeur opiniâtre, dans la lettre à D'Alembert, s'indigne qu'on tourne Alceste en ridicule. Il est vrai que l'espèce de rire qu'Alceste suscite, parce que qu'on le joue mélancolique, qu'on le joue en colère, quelle que soit la façon dont on interprète Alceste, de toute façon, Alceste fait rire à ses dépens. On rit toujours d'Alceste. On rit toujours d'Alceste et de ses colères radicales.
C'est ce que lui dit Philinte, vous donnez la comédie.
Mais bien sûr, vous donnez la comédie, ce qui est une phrase terrible. Vous donnez la comédie, c'est-à-dire que vous voulez montrer, tendre à vos contemporains un reflet si fidèle qu'ils ne le supportent pas, qu'il leur est indigeste, vous avez l'ambition de montrer aux gens ce qu'ils sont. Et par le spectacle de votre droiture, de les renvoyer à leur propre vilainie, à leur propre bassesse, à leur propre misère. Et la seule chose que vous réussissez à faire, c'est les faire marrer. Pour une raison très simple, c'est que, et là on est chez Pascal, Alceste n'a rien à apprendre aux humains. Alceste n'a rien à apprendre à personne. Quand Alceste dit « les gens se mentent », par exemple, pour Alceste même, c'est là qu'il est rousseauiste avant l'heure, je veux dire, pour Alceste même la politesse est un mensonge. Même la moindre amabilité est perçue par lui comme un indice de flatterie. Donc la politesse même est un mensonge. D'ailleurs, il est assez poli lui-même, bizarrement. La politesse même est un mensonge. Personne n'ignore que dire bonjour à quelqu'un, ça n'est pas souhaiter une bonne journée à quelqu'un. Il y a des tas de gens à qui on dit bonjour et à qui ça ne nous ferait ni chaud ni froid qu'ils passassent une bonne journée. Il n'apprend rien aux hommes. En revanche, comme il a le sentiment de leur apprendre quelque chose et qu'il crie très fort ce que tout le monde sait déjà, il fait rire les gens. Et le rire, en l'occurrence, est une correction, c'est-à-dire que c'est une façon de ne pas entendre ce qu'Alceste raconte dans la mesure où il ne sert à rien de l'entendre. On le sait déjà, c'est le grand problème d'Alceste. Ce qu'il a à nous dire, nous le savons déjà. Alceste ne fait que dénoncer des choses que nous savons. Alceste est dans la position d'un type qui viendrait vous démontrer, argument de la physique à l'appui, qui viendrait démontrer à un homme de foi que Jésus n'a pas pu marcher sur l'eau parce que les lois de la physique y contreviennent. Tout le monde le sait déjà. Donc celui-là ferait rire autant qu'Alceste.
Mais les moralistes du siècle de Molière, type La Rochefoucauld, La Bruyère, ils font un peu la même chose. Enfin, La Rochefoucauld dit que la politesse et l'hypocrisie est nécessaire, certes, donc il est plutôt du côté de Philinte, mais La Bruyère, il a un peu le rôle d'un Alceste.
Ils font pas du tout la même chose, enfin je crois pas. Disons que les moralistes, prenons La Rochefoucauld, La Bruyère ou même Chamfort, je veux dire, tous ces gens-là sont effectivement, pour le coup, eux, en marge du système. Ils sont pour le coup en marge du système pour une raison très simple, c'est qu'ils ont repéré de l'orgueil derrière la colère, derrière la franchise, voire derrière le goût de la grandeur ou le courage même, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc ils ont su repérer cela. Ça, c'est indigeste. Dire aux hommes, vous êtes hypocrite, vous êtes menteur, quand vous dites bonjour gentiment à quelqu'un dont l'existence vous est indifférente, c'est ne rien apprendre à quelqu'un. Lui dire, en revanche, que la franchise dont il se pique, la vertu dont il se vante, est en réalité une affaire d'orgueil et de vanité, ça, c'est apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est pas la même leçon. À qui La Bruyère et La Rochefoucauld font-ils d'abord la morale? Aux Alcestes. C'est-à-dire, avant de faire la morale aux hypocrites, à ceux qui ignorent que l'esprit est la dupe du cœur, avant de faire la morale aux hypocrites, ils font la morale à ceux qui veulent faire la morale. Et la grandeur des moralistes, elle est là. Leur conservatisme aussi, d'ailleurs. Ils font la morale à ceux qui font la morale. Quand La Bruyère dit « Dans 100 ans, ce sera la même pièce et les mêmes acteurs et ceux qui sont encore sur scène aujourd'hui ou ceux qui ne sont pas encore arrivés sur scène aujourd'hui n'y seront plus dans 100 ans, ils seront remplacés par d'autres qui occuperont les mêmes places et les mêmes rôles et au fond, rien ne change sous le soleil », là, on apprend quelque chose aux humains. On apprend quelque chose aux gens quand ils ont le sentiment d'être l'origine de leurs actes, d'être originaux dans leurs décisions, dans leurs discours, dans leurs paroles. Là, on leur apprend quelque chose. En revanche, quand on dit à quelqu'un « Vous êtes un menteur quand vous dites bonjour à un autre », bah on lui apprend, non seulement on lui apprend rien, et puis surtout la personne se sent pas franchement coupable parce qu'elle sait très bien que si mensonge il y a, c'est un mensonge bénin. Donc c'est pas la même chose. Le moraliste, hein, c'est celui qui fait la généalogie du comportement qu'un type comme Alceste tient pour l'indice de la vertu. Le moraliste, c'est celui qui repère un intérêt sous la vertu ostensible. Donc le premier ennemi des moralistes, c'est pas les hypocrites, c'est pas les malins de la cour, c'est pas les courtisans. Les courtisans, la cause est entendue, je veux dire, on peut rien faire avec un courtisan. Bon, voilà, un courtisan, c'est un courtisan, c'est un pauvre type, c'est le type qui commence chacune de ses phrases en disant de son supérieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, y a rien à en faire, c'est comme ça, c'est un poisson pilote, c'est un commensal du requin qu'il a décidé d'épouser. En revanche, dire à Alceste « c'est toi le con », c'est apprendre quelque chose à quelqu'un, je crois.
Alors, il y a quand même quelque chose d'étrange dans la pièce, du coup, c'est que Alceste est aimé. En tout cas, il est aimable, puisque Philinte est un homme fidèle tout au long de la pièce. Il n'y a pas de retournement. Philinte ne se met pas à détester Alceste à un moment dans la pièce. Célimène, Éliante, elles ont tout un faible pour Alceste. Donc comment se l'expliquer s'il est si odieux et tellement risible?
Alceste est aimé. Son ami Philinte est un ami fidèle. Célimène est sincèrement amoureuse de lui et Éliante aussi. Donc Alceste est aimé. Alors, il faut prendre les individus séparément. Pour prendre ces trois-là, prenons d'abord Philinte. Philinte, comme son nom l'indique, c'est celui qui aime. C'est l'aimant. C'est l'ami fidèle. C'est celui dont l'amitié pour Alceste montre bien que l'amitié n'est pas, comme dit je crois d'ailleurs La Rochefoucauld, le commerce où l'amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner. Parce qu'avec ce que Philinte prend dans la tête, à longueur de tirade, je veux dire, le seul compliment qu'Alceste fasse à Philinte, c'est « vous êtes un bon raisonneur ». Ah, vous monsieur qui raisonnez si bien. C'est voilà, c'est le seul compliment qu'il lui fait. C'est-à-dire, en gros, vous savez parler, vous êtes un bon rhéteur. Très bien, à chaque fois que Philinte renvoie Alceste dans ses cordes, il lui dit « ok, vous savez raisonner ». Mais pour le reste, vous êtes un pandard, vous êtes un faquin, vous êtes un traître, vous couvrez d'amabilité un type dont vous pouvez à peine me dire le nom, vous êtes un nul. Bref, je veux dire, on a vu des amitiés mieux récompensées. L'amitié que Philinte porte à Alceste témoigne, alors c'est vraiment la quintessence de l'amitié pour le coup, et en cela, Philinte est un personnage beaucoup plus absolu qu'Alceste. L'onctueux Philinte, celui qui défend l'idée qu'à l'intérieur d'une société, il faut une dose homéopathique d'hypocrisie et qu'on se doit d'être courtois avec les gens et payer quelqu'un de la même monnaie quand il vous couvre d'embrassements, etc. Bon, cet homme si onctueux, cette figure du compromis qu'implique la vie en société, est celui qui, dans ses sentiments, ne transige pas. Alors qu'Alceste lui transige. Hein. À la fin, quand il dit à Célimène « Efforcez-vous de paraître fidèle et je m'efforcerai, moi, de vous croire tel », Alceste finit par transiger. Philinte transige beaucoup moins. Philinte reste obstinément mordicus, quoi qu'il arrive, l'ami d'Alceste, alors qu'il n'y a aucun intérêt à être l'ami d'Alceste. parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est une amitié qui ne se donne aucune autre raison, c'est l'élection massive et indivise. Philinte aime Alceste, il est l'ami d'Alceste, c'est comme ça, d'ailleurs c'est son seul ami. C'est vraiment l'amitié au sens le plus inexplicable du terme, au sens où un sentiment ne se donne aucune raison. À la seconde où on donne des raisons à un sentiment, c'est qu'un sentiment bat de l'aile, et que ce soit de l'amitié ou de l'amour. L'amour et l'amitié ont en partage l'idée que si on les justifie, on les perd. L'amour de Philinte pour Alceste, ou l'amitié de Philinte pour Alceste, est une amitié injustifiable. Et en cela, elle est véridique. Célimène, c'est autre chose. Célimène, elle aime Alceste. Alceste ne passe son temps à engueuler Célimène, à lui dire vos manières ne me plaisent pas. Enfin, on va entendre des scènes avec Alceste et Célimène. Bon, il passe son temps à lui reprocher ce qu'elle est. Mais Célimène, c'est celle qui aime Alceste aussi parce que, me semble-t-il, il est sa rédemption. C'est-à-dire qu'elle voit en lui une vertu, une noblesse, qui est la noblesse du cœur. Elle interprète indûment, si vous voulez, parce qu'elle n'a pas lu La Rochefoucauld, comme le signe de la noblesse de cœur, le tempérament colérique d'Alceste. Ce tempérament de raisonneur qui dit non à tout, elle y voit l'indice d'une noblesse. Donc, Alceste tranche avec les petits marquis auprès de qui elle fait la maligne avant d'en dire du mal ensuite. Donc il me semble qu'il y a pour Célimène dans la figure d'Alceste quelque chose de moins sincère en l'occurrence qui est une forme de d'un amour qu'on peut justifier. Alors avec une nuance près, c'est que de la même manière que Philinte ne transige pas avec son amitié, Célimène, en un sens, ne transige pas avec l'idée qu'elle se fait de l'amour, puisque c'est elle qui, à la fin de la pièce, dit à Alceste « Vous ne m'aimez pas comme il faut que l'on aime ». En d'autres termes, vous n'avez pas pour moi cet amour qui enjambe les griefs que deux individus peuvent se faire. Vous ne m'aimez pas malgré moi. Vous m'aimez tel que vous me rêvez. Vous me voulez autre que je ne suis. Vous ne m'aimez pas comme je suis. Or, l'amour... L'amour, alors après il y a un débat, est-ce que l'amour c'est s'adapter à l'autre ou est-ce que l'amour c'est demander à l'autre de s'adapter à l'idée qu'on se fait de lui ? Est-ce que l'amour c'est la cristallisation, deuxième version, ou est-ce que l'amour c'est au contraire l'amour de l'autre ? Bon, le débat est là, Célimène a une conception tout à fait radicale de l'amour. Et alors le cas d'Éliante est aussi intéressant parce que Éliante elle admire Alceste. Éliante, elle admire Alceste, elle lui trouve une vertu, elle lui trouve la vertu de sincérité, mais... Éliante, c'est celle qui, le cœur léger, d'un cœur léger, échange les sentiments qui ne sont jamais réciproques qu'elle éprouve pour Alceste, pour les sentiments qu'elle éprouve à l'endroit de Philinte. Elle passe sans problème d'Alceste à Philinte. Pourquoi ? Parce qu'elle a su repérer en Philinte exactement la même vertu, et peut-être même davantage. Il y a plus de vertu chez Philinte, non pas parce que Philinte est hypocrite alors qu'Alceste est franc du collier. Non, il y a plus de vertu chez Philinte parce que quand il s'agit d'amour ou d'amitié, Philinte ne transige pas. Alors qu'Alceste se met à transiger exactement au moment où on entre dans le sentiment. Moi, c'est ça qui me frappe. Et l'identification de Rousseau à Alceste, c'est-à-dire du marginal majoritaire, du type qui ressemble à tout le monde et qui se vit comme seul de son camp, c'est-à-dire Jean-Jacques Rousseau, à Alceste, qui croit qu'il est misanthrope alors qu'en vérité, il est l'alibi de la société, il est la figure de la société, il est celui que la société bénit au titre de son contestataire. Cette figure-là est une figure archi-répandue. La beauté d'Alceste vient non pas de son caractère unique, mais au contraire de la grégarité qu'il porte en lui.
Alors on pourrait entendre, Raphaël, puisqu'on parle beaucoup de Philinte, en fait, on fait la part belle à Philinte pendant cette émission, ce qui pourrait être la philosophie un petit peu de... la philosophie du compromis de Philinte ?
Oui, parce que celui qu'on tient indûment pour un hypocrite est un homme de grande sagesse. C'est le social-démocrate de la pièce, Philinte. Vous savez, la formule de la social-démocratie, version vulgaire de la social-démocratie, c'est le côté « oui, d'accord, mais enfin tout de même ».
Oui, d'accord, il y a, il faut l'économie de marché, mais enfin tout de même, il y a des injustices. Vous voyez, c'est la formule du social-démocrate. C'est celui qui passe des compromis. C'est celui avec qui il est extrêmement difficile d'être en désaccord. D'ailleurs, Alceste n'arrive pas à contredire Philinte. Et c'est pour ça qu'il lui dit, vous raisonnez si bien, il ne peut que le vouer aux gémonies en traitant de la même manière son hypocrisie mondaine et son goût du compromis à l'échelle de la nature humaine.
Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut, parmi le monde, une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande roideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps sans obstination. Et c'est une folie, à nulle autre seconde, de vouloir se mêler de corriger le monde. J'observe comme vous, 100 choses tous les jours qui pourraient mieux aller prenant un autre cours. Mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître, en courroux comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font, et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile.
Il y a du soleil dans la rue, moi j'aime bien le soleil, mais j'aime pas les gens, et je reste caché tout le temps. À l'abri des volets d'acier noir, il y a du soleil dans la rue. Moi j'aime bien la rue, mais quand elle s'endort, et j'attends que le jour soit mort, et je vais rêver sur les trottoirs. Je me mets au lit.
Philinte, c'est vraiment le juste milieu un peu dont on avait pu parler par exemple dans les émissions de Pascal, ni trop peu, ni trop de vin en fait. C'est comme dit à un moment Molière dans sa lettre, il dit « L'ami du misanthrope est si raisonnable que tout le monde devrait l'imiter, il n'est ni trop peu critique ». Et en fait, c'est ça, c'est le milieu. Mais du coup, puisque vous parliez de sociaux-démocrates...
Social-démocratie. Ouais. D'accord, mais enfin tout de même.
Et du coup, le pendant, Alceste, est-ce que ça serait l'extrême?
C'est une pièce politique, le misanthrope. Je crois que c'est une pièce politique. Après, on peut l'interpréter tout à fait différemment. Hein, mais c'est une interprétation, je crois, recevable. Écoutons Philinte. À force de sagesse, on peut être blâmable. Bon, d'accord. La parfaite raison fuit toute extrémité. Cet Alexandrin, hein, devrait être lu, brandi, appris par cœur, par toute personne qui, sous l'effet de la colère, et prenant son petit cas de figure pour une généralité, s'apprête à voter pour les extrêmes, tout simplement, c'est-à-dire s'apprête à traduire sa colère en termes politiques, c'est-à-dire à voter non pas pour une solution, mais à voter pour un cri. Et dire « la parfaite raison fuit toute extrémité », c'est vraiment, pour le coup, la formule, non pas seulement de la pondération politique, si vous voulez, faire de Philinte seulement un social-démocrate, c'est contraindre les uns et les autres à une sorte de compromis un peu mollasson. Je ne sais pas si c'est un social-démocrate, Philinte, c'est plutôt un fondant au chocolat. C'est-à-dire c'est plutôt un mélange d'extrême chaleur et de grande froideur. C'est-à-dire c'est plutôt un mélange d'hypocrisie et d'intransigeance amicale. Philinte n'est pas seulement un homme onctueux. Il n'est pas que cela. Je l'ai dit tout à l'heure et peut-être je le regrette un peu à entendre ce texte-là. Je le regrette. En revanche, il est vrai que Philinte s'en prend directement aux tempéraments extrêmes. C'est-à-dire... aux tempéraments extrêmes et au désir qu'on peut avoir de traduire politiquement en extrémisme la colère qui est la sienne. Je veux dire, quand on voit par exemple les scores du Front National, c'est très intéressant de voir les scores du Front National. Alors, en général, quand le Front National cartonne, les politiques se penchent avec componction et gravité, font leur mea culpa, amende honorable. Nous n'avons pas su offrir à nos concitoyens des réponses aux problèmes qu'ils se posent. Il est important de discuter avec eux, il est important, etc. Bon. Mais il n'y a pas un homme politique pour dire quand même que, même en temps de crise, même quand c'est la galère, même quand c'est l'enfer, c'est quand même fou de voter pour un parti aussi con. C'est une parole qu'on n'entend pas, ça. Et c'est aussi ce que Philinte dit ici, quand il dit « la parfaite raison fuit toute extrémité ». On a tous le droit d'être en colère.
Mais on revient sur le problème de se demander, du coup, si Philinte n'est pas juste un personnage conservateur, si on reste dans des idées politiques.
Je vous retourne la question, Paola. Camus est-il conservateur ? Quand, dans la préface de L'envers et l'endroit, il écrit « Changer la vie, oui, mais non le monde dont je faisais ma divinité. » Camus est-il conservateur à l'instant où il dit ça ? Parce que c'est le grand partage. Vous avez des tas de gens pour considérer que Camus est conservateur, dans la mesure où il préfère sauvegarder ce qui peut l'être plutôt que de changer les choses, si vous voulez. Et donc vous avez des tempéraments plus radicaux. Les Sartriens tenaient Camus pour un bon bourgeois. À quoi Camus leur répondait, c'est vous les bourgeois qui mettez votre fauteuil dans le sens de l'histoire. C'est vous les bourgeois. Voilà, lequel des deux est le plus bourgeois, au sens métaphorique du terme ? Camus ou Sartre ? Et cette question, on peut se la poser à partir du misanthrope. Est-ce que c'est Camus, parce que la teneur de son propos est, en un sens, anti-révolutionnaire ? Au sens où, pour Camus, la révolution, il n'y a aucune différence entre la révolution et le conservatisme, puisque la révolution débouche sur un conservatisme renouvelé, seulement dans l'intervalle, on est passé par des massacres de masse. Donc, y a-t-il conservatisme chez Camus dans la mesure où, par haine du conservatisme, il se méfie de l'idéal révolutionnaire et de ses cohortes d'esclaves qui s'ignorent, comme il dit dans L'homme révolté. Alors, vous avez ceux qui considèrent que Camus est effectivement conservateur à ce titre, parce qu'ils considèrent aussi qu'il suffit de défendre le principe de la révolution pour être soi-même un progressiste. Vous avez de l'autre côté Camus qui dit « les bourgeois, c'est vous, parce que votre pensée ne vous engage à rien. Quand on veut tout changer, on ne change rien. » Et les vrais conservateurs, c'est ceux qui, non seulement ne changent rien, mais s'accommode de ne rien changer en disant qu'ils veulent tout changer.
Et c'est Alceste, tout à fait.
C'est Alceste ne change rien au monde.
Il fuit,
mais alors il a la conscience tranquille, attention. C'est comme un homme qui s'indigne, Alceste, si vous voulez. Il y a des injustices, ça le choque, ça l'indigne. Il ne peut pas les changer, mais au moins, lui, il n'y a pas cédé. C'est facile. On ne prend aucun risque, quand on est un téméraire de cet ordre-là. Alors, voilà, où est le conservatisme ? De deux choses l'une, si vous êtes sartrienne, vous pourrez considérer à bon droit que le bourgeois filin de celui qui est courtois, poli, civil, et qui flatte le pauvre orgon dont les vers sont misérables et bons à jeter au cabinet, etc. Orgon, c'est dans ce capin. On peut considérer que Philinte est un conservateur. Si vous êtes camusienne, vous aurez plutôt tendance à considérer que le vrai conservateur dans l'histoire, c'est celui qui recouvre son inaction du voile flatteur de son intransigeance, c'est-à-dire Alceste.
Madame, voulez-vous que je vous parle net ? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elles, dans mon cœur, trop de bile s'assemble. Et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons, indubitablement. Et je vous promettrai mille fois le contraire que je ne serai pas en pouvoir de le faire.
C'est pour me quereller donc à ce que je vois que vous avez voulu me ramener chez moi.
Je ne querelle point, mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder.
Des amants que je fais, me rendez-vous coupable ? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable ? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors ?
Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu moins facile et moins tendre. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ceux qu'attirent vos yeux. Et sa douceur offerte à qui vous rend les armes achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Le trop riant espoir que vous leur présentez attache autour de vous leurs assiduités. Et votre complaisance un peu moins étendue, de tant de soupirants, chasserait la cohue. Mais au moins, dites-moi, madame, par quel sort votre clitandre a l'heure de vous plaire si fort ? Sur quel fond de mérite et de vertu sublime appuyez-vous en lui l'honneur de votre estime ? Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt, qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit ? Vous êtes-vous rendu avec tout le beau monde au mérite éclatant de sa perruque blonde ? Sont-ce ces grands canons qui vous le font aimer ? L'amas de ses rubans a-t-il su vous charmer ? Est-ce par les tapas de sa vaste ringrave qu'il a gagné votre âme en faisant votre esclave ? Ou sa façon de rire ? Et son ton de fausset ont-ils de vous toucher su trouver le secret ?
Oh, qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage ! Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage ? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis.
Perdez votre procès, madame, avec constance. Et ne ménagez point un rival qui m'offense.
Bon, décidément, Alceste n'a pas compris grand-chose à l'amour. En écoutant sa grande tirade sur Clitandre, etc., on se croirait presque dans un passage de Pascal, le passage archi-célèbre des qualités, de l'amour. Est-ce pour cela qu'on l'aime? Est-ce pour l'ongle long de Clitandre
ou... Vous avez tout à fait raison. Le texte en question, j'en oublie la référence, mais si celui qui m'aime, pourquoi m'aime-t-il? Pour ma beauté? Non, puisque la petite vérole qui tuera la beauté fera qu'il ne m'aimera plus, pour mon argent, pour mon mérite, etc. La conclusion de Pascal, c'est qu'on n'aime jamais les gens que pour des qualités empruntées. Ce qui, chez Pascal, et c'est toute la différence entre Pascal et Alceste, ce qui, chez Pascal, le conduit à quelle conclusion, Paola? Quelle est la conclusion de Pascal, puisqu'on aime tout le monde pour des qualités empruntées? Qu'on ne juge pas les gens qui aiment, puisqu'on en est tous là, et qu'il n'est d'amour véritable que l'amour de Dieu, aux yeux du janséniste Pascal. Ne jugeons pas les gens qui aiment. Et quant au duc, saluons-le parce qu'il est duc, et non pas parce qu'on l'estime vraiment. Donc Pascal met au service un diagnostic comparable. Il trouve les marquis aussi ridicules qu'Alceste. Enfin, Pascal, c'était les libertins, mais c'est pareil. Les marquis avec leurs rubans ou les libertins avec leur manière ne trouvent pas davantage grâce aux yeux de Pascal que d'Alceste. Mais la conclusion d'Alceste, c'est qu'il faut absolument corriger tout cela, rectifier tout cela, alors que Pascal, avant de juger, s'attache à comprendre. Et de ce point de vue, Pascal, le conservateur, encore une fois, est autrement subversif qu'Alceste, l'intransigeant, dont, encore une fois, les diatribes culminent dans l'impuissance. Une impuissance flatteuse pour lui, mais ça reste une impuissance.
Il faut quand même faire droit à une réplique de Célimène qui est, je trouve, géniale. C'est « Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable ?»
Mais écoutez...
Célimène est géniale.
Célimène est géniale. Célimène est géniale. Et le sort de Célimène dans la pièce est la vraie tragédie. Car Célimène, elle est merveilleuse. Elle n'est pas seulement merveilleuse parce qu'elle assume son être de coquette, son coq-être. Elle n'est pas seulement merveilleuse parce qu'elle assume son goût de plaire et parce qu'elle refuse de suivre Alceste dans son désert à la fin de la pièce. Elle n'est pas seulement merveilleuse pour ça. Elle est merveilleuse parce qu'elle sait que c'est une faiblesse et qu'à 20 ans, bien qu'elle ait 20 ans, elle a la sagesse de comprendre que le premier pas vers la sagesse est de renoncer à la sagesse. Et puis surtout, qu'on a l'humeur de son âge. Elle est formidable, Célimène. Elle comprend, qu'elle est faible, qu'elle a des faiblesses, et que ces faiblesses, il faut y consentir, peut-être pour s'en débarrasser. Elle comprend aussi que son tempérament lui vient de ses 20 ans, et qu'à l'âge d'Arsinoé, c'est-à-dire quand on a deux fois 20 ans, on n'est pas de la même humeur. On va entendre ensuite la scène entre Célimène et Arsinoé, qui est un règlement de compte à hockey choral extraordinaire. Et puis... le moment où Célimène est confondu par Arsinoé, justement, quand Arsinoé exhume la lettre où Célimène dit du mal, dit pique-pendre de tous les petits marquis à qui elle laissait entrevoir que, si ça se trouve, il y avait moyen de faire, comme disent les Jones. Cette scène-là est d'une cruauté absolue. C'est elle la grande victime. C'est elle la victime, Célimène. C'est elle la victime, et le fait qu'elle soit victime, le fait que tout le monde lui tombe dessus après que tout le monde lui a fait la cour, d'être la victime, de se voir chapitrée, non plus seulement par Alceste, mais par tous ces petits marquis ridicules, ces hypocrites merdiques qui se conduisent comme des animaux et qui transforment en leçon de morale ce qui n'est qu'un dépit amoureux pour eux, de se voir chapitrée par tous ces gens-là est une injustice insigne, et pourtant Célimène continue d'être fidèle à son âge, c'est-à-dire de considérer qu'à 20 ans, on ne va pas dans un désert. Ça n'est pas l'âge de le faire. Ça n'est pas le temps de le faire. Célimène est un personnage intelligent. C'est un sage. Sage. Elle a la sagesse de ne pas vouloir être sage. Elle sait que l'esprit est la dupe du cœur. Elle sait en tout cas que ses sentiments sont les dupes de son âge. Elle a cette sagesse extraordinaire, cette sagesse antique, nietzschéenne presque. Et enfin... elle continue de rester dans un monde qui l'a excommuniée, elle, pour de vrai. Célimène est beaucoup plus indigeste au système quand ses manœuvres sont révélées qu'Alceste, dont la mauvaise humeur n'apprend rien à personne.
Alors, on peut entendre dès maintenant la confrontation, parce qu'il y a tellement de choses à dire entre Arsinoé et Célimène.
La scène est sublime.
La scène est tellement belle.
La scène est belle.
Elle est cruelle plus que belle.
Quel ressort en ce lieu vous amène, madame? Sans mentir, j'étais de vous en peine.
Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir.
Ah, mon Dieu, que je suis contente de vous voir.
L'heure départ ne pouvait plus à propos se faire.
Voulons-nous nous asseoir?
Il n'est pas nécessaire, madame. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent importer. Et comme il n'en est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance, je viens, par un avis qui touche votre honneur, témoigner l'amitié que pour vous a mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière, où sur vous, du discours, on tourna la matière, et là, votre conduite, avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qu'elle excite trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quelle partie je sus prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusai fort sur votre intention et voulus de votre âme être la caution. Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, quoi qu'on en ait envie, et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous vivez vous faisait un peu tort, qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est compte fâcheux que partout on en fasse, et que, si vous vouliez, tous vos déportements pourraient moins donner prise au mauvais jugement. Non que j'y croie, au fond, l'honnêteté blessée me préserve le ciel d'en avoir la pensée, mais aux ombres du crime on prête aisément foi, et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts.
Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. Un tel avis m'oblige, et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître à l'instant la faveur par un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer, mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour, où je faisais visite, je trouvais quelques gens de très rare mérite qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, fit retomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris aux ombres d'indécence que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence, cette hauteur d'estime où vous êtes de vous et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures, tout cela, si je puis vous parler franchement, madame, fut blâmé d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage d'or que dément tout le reste? Elle est à bien prier, exacte au dernier point, mais elle bat ses gens et ne les paye point. Dans tous les lieux dévots, elle étale un grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je prie votre défense et le rassurer fort que c'était médisance. Mais tous les sentiments combattirent le mien, et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres, qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens, qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire, et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre au besoin à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts.
C'est beau, non?
Oui, non, c'est incroyable la répartie de Célimène.
C'est fabuleux. Ce qui est beau dans l'histoire, c'est que Célimène contient pour une coquette, une cocotte, une je sais pas quoi, une hypocrite, le contraire d'Alceste, l'antipode d'Alceste. On fait de l'amour d'Alceste pour Célimène une contradiction puisqu'Alceste pique de vertu et on lui dit comment vous faites pour aimer Célimène qui n'est pas vertueuse ou
qui n'est pas votre genre,
etc., qui n'est pas votre genre, machin. D'abord, c'est pas son genre, c'est peut-être pour ça qu'il l'aime, mais surtout, c'est évident, Alceste ne peut aimer que son antipode. Alceste ne peut aimer que qui le fait souffrir. C'est impossible, sinon. Alceste ne peut pas aimer sans avoir la jouissance de souffrir. Il ne peut pas aimer Célimène sans... Enfin, je veux dire, il ne peut pas aimer sans souffrir. C'est impossible, cet homme-là. Sa misanthropie, qu'il prend pour de la vertu et le goût de la vérité, est une pulsion de mort. C'est une pulsion de mort, c'est comme un jaloux, Alceste. D'ailleurs, il est jaloux. Il n'a absolument pas besoin de la culpabilité de Célimène pour la chapitrer et la sermonner en permanence. L'amour d'Alceste pour Célimène n'est pas du tout contradictoire. Il est logique qu'un misanthrope aime une coquette, parce que le misanthrope, précisément, c'est celui qui cherche constamment dans la société de quoi se plaindre d'elle. Son but n'est pas de changer le monde, mais d'y trouver l'occasion de s'en plaindre. Célimène s'est tout trouvé. Le problème, c'est que Célimène, et là où Alceste trompe gravement, c'est que la seule personne dans cette pièce, non, à part Alceste quand il remet Oronte à sa place en lui disant que ses vers sont bons à jeter au cabinet, mais la seule personne, à part celui-là, qui montre à quelqu'un le miroir de son hypocrisie, c'est évidemment Célimène avec Arsinoé. Arsinoé, c'est Tartuffe. Il n'y a pas plus hypocrite qu'Arsinoé, puisqu'elle est celle qui, vous savez, c'est la phrase de Guitry, qui se moque de ces vieillards qui donnent de bons conseils parce qu'ils ne sont plus en âge de donner de mauvais exemples. Arsinoé, c'est ça. Arsinoé, ça n'est que cela. Et d'ailleurs, dans la scène dont nous avons entendu le début, un peu plus bas, Arsinoé a un aveu terrible. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage et vous faites sonner terriblement votre âge. Terriblement. Arsinoé, c'est un mélange de Tartuffe et d'Armande, vous savez, dans l'école des femmes. Armande, c'est celle qui chapitre sa sœur Henriette parce qu'elle se laisse aller aux basses choses du corps, jusqu'au jour où elle apprend que Henriette a jeté son dévolu sur Clitandre. Et Henriette lui dit « Mais pourquoi ça vous gêne ?» Elle dit « Mais enfin, nul n'ignore que Clitandre a longtemps soupiré à ma suite, » dit Armande. « Et oui, dit Henriette, mais vous aimez la philosophie, vous n'aimez pas Clitandre, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Moi, j'aime Clitandre et Clitandre m'aime beaucoup, donc tout va bien. » Et Armande, c'est un personnage tragique parce qu'elle est déchirée entre ce qu'elle doit à sa mère, c'est-à-dire l'amour de la philosophie et le mépris des choses du corps, et en même temps le fait d'être une femme, et en l'occurrence amoureuse de Clitandre.
Les femmes savantes ?
Oui, j'ai dit l'école des femmes.
Mais c'est pas grave.
C'est les femmes savantes. Bien sûr, vous avez raison. Bien sûr, merci. Arsinoé, c'est un mélange de Tartuffe et d'Armande. C'est un personnage extraordinaire. La généalogie que Célimène fait de la vertu qu'elle brandit est un monument. Alors là, pour le coup, c'est un monument nietzschéen. Je veux dire, Nietzsche n'a rien inventé dans la généalogie de la morale. Quand il s'interroge sur la cuisine fétide d'où émanent les idéaux les plus nobles, les vertus les plus sages. Arsinoé, c'est l'idéal ascétique au sens nietzschéen du terme. C'est le curé. C'est ce que toute personne qui ne se satisfait pas du contenu d'une parole, mais qui s'interroge sur ce qui lui donne jour... C'est-à-dire, c'est ce que tout généalogiste repère chez un individu qui fait profession de pruderie, comme c'est le cas d'Arsinoé.
Et c'est Arsinoé qui piégera d'ailleurs après Célimène.
Oui, c'est Arsinoé qui piégera Célimène en révélant le contenu d'une lettre. Alors, la scène avec Alceste est extraordinaire, puisqu'elle dit à Alceste « Vous méritez sans doute un sort beaucoup plus doux, et celle qui vous charme est indigne de vous. Là, je vous ferai voir une preuve fidèle de l'infidélité du cœur de votre belle. » Et si pour d'autres yeux le vôtre peut brûler, on pourra vous offrir de quoi vous consoler. Elle se satisferait d'être un lot de consolation, Arsinoé. Alors que c'est exactement ce qu'Eliante refuse quand Alceste, convaincu de l'infidélité de Célimène, se tourne vers Eliante en lui disant « Madame, je vous aime. Du coup, puisque j'aime plus Célimène, c'est vous que j'aime. » Eliante lui dit « Non, t'es gentil, moi c'est Philinte. Maintenant, ça va, je suis pas un deuxième prix. Par conséquent, je reste avec Philinte, lequel d'ailleurs reste évidemment l'ami d'Alceste à cet instant. » Mais ce qui est admirable, vraiment, je crois, dans cette scène Arsinoé-Célimène, y compris dans la tirade qui précède l'arrivée d'Arsinoé. On arrive quasiment au terme de l'émission, on n'a même pas entrevu ce qu'on voulait entrevoir, c'est pas grave. Juste avant l'arrivée d'Arsinoé, Célimène dit quand même ceci, l'oxymore est fabuleux, « Oui, oui, franche grimace. Dans l'âme, elle est du monde, et ses soins tentent tout pour accrocher quelqu'un sans en venir à bout. Elle ne saurait voir qu'avec un œil d'envie les amants déclarés dont une autre est suivie, et son triste mérite, abandonné de tous, contre le siècle aveugle et toujours en courroux, et ça c'est extraordinaire, elle tâche à couvrir d'un faux voile de prude ce que chez elle on voit d'affreuse solitude, et pour sauver l'honneur de ses faibles appas, elle attache du crime au pouvoir qu'ils n'ont pas. On s'approche, Paola, du terme de l'émission. Et bon, il y a des tas de choses qu'on n'a pas pu dire, c'est pas grave, c'est toujours comme ça. Et c'est tant mieux, d'une certaine façon, c'est bon signe. Et si nos auditeurs ont la même frustration que nous à la fin de l'émission, c'est dans la poche. Il faut juste quand même qu'on donne à entendre la scène de rupture, en fait, entre Alceste et Célimène, à la toute fin de la pièce, hein, quasiment la scène dernière, où on comprend que Célimène a une très haute idée du sentiment amoureux, alors qu'Alceste, lui, passe plus de compromis qu'il ne prétend le faire.
Défendez-vous au moins d'un crime qui m'accable, et cessez d'affecter d'être envers moi coupable. Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent. À vous prêter les mains, ma tendresse consent. Efforcez-vous ici de paraître fidèle et je m'efforcerai, moi, de vous croire telle.
Allez, vous êtes fou dans vos transports jaloux et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. Je voudrais bien savoir qui pourrait me contraindre à descendre pour vous aux bassesses de feindre. Et pourquoi, si mon cœur penchait d'autre côté, je ne le dirais pas avec sincérité? Quoi? De mes sentiments, l'obligeante assurance contre tout, vos soupçons ne prend pas ma défense. Auprès d'un tel garant sont-ils de quelque poids? N'est-ce pas m'outrager que d'écouter leur voix? Et puisque notre cœur fait un effort extrême lorsqu'il peut se résoudre à confesser qu'il aime, puisque l'honneur du sexe ennemi de nos feux s'oppose fortement à de pareils aveux, l'amant qui voit pour lui franchir un tel obstacle doit-il impunément douter de cet oracle? Et n'est-il pas coupable en ne s'assurant pas à ce qu'on ne dit point qu'après de grands combats? Allez, de tels soupçons méritent ma colère et vous ne valez pas que l'on vous considère. Je suis sotte et veux mal à ma simplicité de conserver encore pour vous quelque bonté. Je devrais autre part attacher mon estime et vous faire un sujet de plainte légitime.
Vous avez dit donc que c'est Alceste qui s'abaisse à ce moment-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je vais vous opposer quelque chose. C'est qu'on pourrait dire qu'il a enfin compris la leçon de Philinte, par exemple.
Non, parce qu'il sait depuis le début qui est Célimène. Il n'en doute pas, d'ailleurs lui-même s'interroge sur l'amour qu'il lui porte. Il le sait depuis le début, il le présente lui-même comme sa faiblesse. Il sait depuis le début qui est Célimène, et c'est même la raison, à mon avis, pour laquelle il l'aime vraiment. Ou en tout cas pour laquelle il est vraiment convaincu de l'aimer, si tant est qu'un amour puisse se donner une raison, etc. Il le sait depuis le début, il n'a aucun doute là-dessus. En revanche, ce qu'il est capable de faire, là, c'est extraordinaire. Alors, on le vit comme un... on se le représente comme une contradiction. Alceste, le misanthrope, l'homme qui ne transige pas, etc., qui dit soudain « Efforcez-vous, misérable, comme ça. » Enfin, le type, le même homme, devient tout misérable et dit « Efforcez-vous ici de paraître fidèle et je m'efforcerai, moi, de vous croire tel. » C'est pas du tout contradictoire. Ça n'est pas du tout contradictoire. C'est la meilleure façon de souffrir. Alceste est beaucoup moins sincère avec lui-même puisqu'il considère que sa misanthropie et son goût de la vérité fait qu'il est véridique. Alors que, leçon de Nietzsche, rien n'est plus mensonger qu'un tel désir de vérité. Et au fond, il n'y a aucune contradiction dans le fait qu'un misanthrope, un homme épris d'intransigeance et de vérité, se tourne soudain vers la femme qu'il aime en disant « Efforcez-vous de paraître fidèle et je m'efforcerai moi de vous croire telle ». Il ne se contredit qu'en apparence, puisqu'en réalité ce qui lui fait désirer la vérité, c'est un mensonge déjà, puisque c'est une façon de prendre pour une vertu ce qui n'est que l'effet de sa colère ou que l'effet de son orgueil. Donc, il n'y a pas de contradiction dans cette reddition soudaine d'Alceste. En revanche, Célimène, qui, elle, ne renonce pas au plaisir de plaire, au bonheur de plaire, Célimène, elle, se transforme ici en être intransigeant, mais dignement intransigeant, justement intransigeant. Et c'est là que Célimène est plus vaste que Célimène. C'est là que Célimène mérite mieux que d'être enfermée dans l'étiquette de cocotte ou l'étiquette de coquette. Puisqu'elle dit « Je voudrais bien savoir qui pourrait me contraindre à descendre pour vous aux bassesses de feindre ». Ça, c'est une parole qui devrait être d'Alceste. Et non, elle est de Célimène, parce que c'est Célimène qui, à un instant, éprouve un sentiment véritable, à la différence de tous les autres petits marquis, à Caste, Oronte, Orgon. Gascon, Argante, je sais pas quoi. Je veux dire, tous ces noms absurdes qu'on trouve chez Molière, Célimène est celle qui distingue Alceste. Elle distingue Alceste. Elle le distingue, elle l'aime vraiment, et c'est elle, ici, qui lui parle d'un amour véritable. Et elle continue. « Je suis sotte et veux mal à ma simplicité de conserver encore pour vous quelques bontés. Je devrais autre part attacher mon estime et vous faire un sujet de plainte légitime. » Elle est celle qui, comme Philinte, inexplicablement, continue d'aimer Alceste, alors que clairement cet homme-là ne le mérite pas. Ne le mérite pas, cet homme qui se pique d'un si haut mérite, est précisément celui qui, pour cette raison-là, ne le mérite pas. Il ne le mérite pas parce que ce qu'il prend pour son mérite n'est en fait que l'effet de son orgueil et de sa mauvaise humeur, ce tempérament colérique qu'il a hérité de je ne sais pas quel dieu Furax. C'est Célimène la vraie vertueuse dans l'histoire. C'est Célimène qui, à un moment, abjure sa coquetterie au profit d'un homme. Un homme qu'elle aime vraiment, et un homme devant qui elle ne fait pas la coquette, un homme à qui elle ne ment jamais, c'est Alceste. Quand Alceste lui dit « Madame, vous m'avez trompé », Célimène lui dit « Mais enfin, pas du tout, écoutez, la lettre que vous me montrez, ne dit rien de plus que ce que vous savez déjà, je n'ai pas couché, je veux dire, je ne suis pas une traîtresse, elle est juste, voilà, elle est confondue dans sa coquetterie, mais il n'y a pas de crime derrière ça, c'est à peine un délit, si vous voulez. En revanche, Alceste est celui qui s'incline, il dit « Efforcez-vous de paraître fidèle et je m'efforcerai moi de vous croire telle », alors qu'elle ne cède pas, elle ne veut pas être contrainte à descendre aux bassesses de la feinte. Et un dernier point là-dessus, j'ai dit que c'était une pièce politique, dans cette formule d'Alceste « Efforcez-vous ici de paraître fidèle et je m'efforcerai moi de vous croire telle », il me semble qu'on a la formule du contrat implicite qui lie un électeur à celui pour qui il vote. Quand on vote au présidentiel, par exemple, quand on vote pour un candidat, on ne vote pas pour ce qu'il est. On lui demande d'avoir la figure de l'emploi. On lui demande d'avoir la gueule de l'emploi. On lui demande de ressembler à un candidat. En d'autres termes, on ne vote pas pour une vraie personne. D'ailleurs, le jeu des affiches électorales ne montre pas les gens comme ils sont, mais les montre tout en situation symbolique, métaphorique. Les personnages incarnent quelque chose. Quand un candidat se tient les mains, par exemple, ça veut dire qu'il veut réunir son pays. Quand il regarde au loin et à gauche, ça veut dire que c'est Jean-Luc Mélenchon. Quand il regarde au loin et à droite, c'est Marine Le Pen. Si vous voulez, il n'y a que des symboles dans les affiches électorales. On ne vote pas pour un candidat, on vote pour une gueule. On vote pour une figure obligée. Et cette figure obligée, c'est au fond, je veux dire, quand Alceste dit à Célimène « Efforcez-vous de paraître fidèle et je m'efforcerai moi de vous croire tel », c'est un peu comme un électeur de Mélenchon qui lui dirait « Efforcez-vous de paraître rebelle et je m'efforcerai moi de vous croire tel ». C'est-à-dire que dans ce jeu de théâtre, en quoi consiste la politique, le désir d'être dupe, qui est le propre d'un électeur. On dit que les électeurs ne veulent pas être dupes, les Français ne veulent pas qu'on les trompe. C'est pas vrai. Si les Français voulaient pas qu'on les trompe, ils n'auraient pas réélu des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Le désir d'être dupe est si puissant qu'au fond, ils ne demandent pas la vérité, mais ils demandent à quelqu'un qu'on lui crève les yeux agréablement. Ils demandent à un candidat de ressembler à l'idée qu'on s'en fait. Et pour Alceste, qui ne demande que cela à Célimène, si l'idée qu'il s'en fait, c'est qu'elle est vertueuse, il lui demande juste d'en avoir l'apparence, et à ce compte-là, il pourra enfin s'en satisfaire comme un électeur satisfait d'avoir voté pour le candidat pour lequel il votera de nouveau, quand bien même le candidat élu ne tient pas ses promesses. Merci Paola, merci à tous. Nous quittons donc l'arche d'Arsinoé, les tourments d'Alceste, la douceur de Philinte ou le ridicule des courtisans Rimailleur, car c'est la fin de l'émission, ainsi soit-il. Un grand merci à Vincent Abouchard et François Connac, notre duo de réalisateurs pour cette émission. Merci également à Nadège Antonini à la technique, à Alice Ramon, sans qui les émissions n'auraient pas lieu, et à vous, chers auditeurs, toujours plus nombreux à écouter nos bavardages. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur Internet, à la page du Gai Savoir, où vous attendent toutes les émissions d'ailleurs enregistrées depuis presque 2 ans, et où vous attendent aussi bibliographie, écoutes en ligne et téléchargements, ou bien sur Facebook, sur le mur du Gai Savoir, où vous attend rigoureusement la même chose. On se retrouve dimanche prochain pour plonger de nouveau, figurez-vous, dans la République de Platon, puisque, certains d'entre vous s'en souviennent, nous n'avions pas eu le temps d'étudier, comme promis, le mythe final de la République et le périple provisoire, pour une fois, d'Ère le Pamphylien dans l'au-delà. Platon donc et la fin de la République, c'est dimanche prochain de 16h à 17h dans le Gai Savoir. Dans l'intervalle, sachez que Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, béni soit-il, consacre la semaine prochaine au grand Michel Foucault, auditeur chanceux. Tous les jours de 10h à 11h, Les Nouveaux Chemins vous proposent la plus inventive, la plus radiophonique des philosophies sur France Culture. Dix-sept heures sur France Culture, dans un instant, Ali Rebéi.